Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous continuons notre série concernant atteindre toutes les tribus du monde. Ça, c'est notre devoir, c'est d'atteindre toutes les tribus du monde. Aujourd'hui, nous sommes à l'étude numéro 8. Et le titre sera « Réunir les enfants dispersés ». Cette interprétation de la vision que avait Saint Jean de la mission est confirmée avec force par son évangile en Saint Jean chapitre 11, versets 50 à 52. Nous lisons que le grand prêtre Caïphe presse les membres furieux du conseil juif de se débarrasser de Jésus, expliquant qu'il est dans leur intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation tout entière ne disparaisse pas. Jean commente donc ensuite ces paroles de Caïphe et il les met et les emploie donc ainsi pour bien comprendre sa vision missionnaire. Du reste, voici ce que écrit Saint Jean au chapitre 11, versets 51 et 52. Je vais vous le lire. Or, Caïphe ne dit pas cela de lui-même. Je répète, or, Caïphe ne dit pas cela de lui-même. Mais comme il était grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et ce n'était pas pour la nation seulement, mais c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Chers amis, cela concorde remarquablement avec la conception de la mission telle que Saint Jean l'exprime en Apocalypse chapitre 5 verset 9. Nous lisons dans ce livre que par sa mort, le Christ a racheté des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Ici, en Jean, en Évangile de Jean, chapitre 11, verset 52, il est écrit que la mort du Christ réunit les enfants de Dieu qui sont dispersés au sein de toutes ces nations. Autrement dit, ces deux textes présentent la tâche missionnaire comme ayant pour but de rassembler tous ceux qui sont rachetés par le Christ. Et Jean les appelle les enfants de Dieu. Vous et moi, nous sommes les enfants de Dieu. Alléluia. Le terme dispersé, au chapitre 11, verset 52, est donc à entendre dans son sens le plus large. Les enfants de Dieu se trouveront aussi dispersés qu'il y a des peuples sur la terre. Le but de la tâche missionnaire, c'est de les atteindre dans toutes les tribus, dans toute langue, tout peuple et dans toutes les nations. La prédication des missionnaires, c'est le moyen par lequel ils doivent être atteints. C'est ce que Jésus sous-entend lorsqu'il dit en Jean chapitre 17 verset 20 « Je ne prie pas pour eux seulement, mais encore pour tous ceux qui croiront en moi à travers leurs paroles. Ces paroles sont à rapprocher de Jean chapitre 11, verset 52, où il est dit que Jésus n'est pas mort pour la nation seulement, mais afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu, qui sont dispersés partout sur la terre. Le pouvoir salvateur de sa mort sera étendu, vraiment, sera étendu à tout homme et femme de toutes les nations du monde. Mais cela se fera uniquement à travers le message qui porteront, que porteront ceux, tous ceux qui sont envoyés. C'est donc cette même conception qui sous-entend les paroles missionnaires de Saint Jean chapitre 10 verset 16. Jésus déclare, « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos, celles-là aussi. Il faut que je les amène, elles écouteront ma voix. » Cet enclos fait référence au peuple d'Israël. Les autres brebis sont les enfants de Dieu qui sont dispersés partout sur la terre. Notez Évangile de Saint Jean, chapitre 11, verset 52. Notez aussi Saint Matthieu, chapitre 28, verset 18 et 19. Ainsi que Matthieu, chapitre 24, verset 14. Il s'agit donc de ceux dont parle Apocalypse, chapitre 5, verset 9. C'est-à-dire les hommes de toute tribu, j'ajoute les femmes, vous l'avez compris, qui ont été rachetés. Par conséquent, la formulation, celle-là aussi, il faut que je les amène. Cela revient à affirmer très fortement que le Seigneur veillera. Il veillera à ce que son dessein missionnaire s'accomplisse. Il rassemblera donc ses brebis, les enfants de Dieu, tous les rachetés parmi tous les peuples de la terre. Comme il l'annonce en Saint Matthieu chapitre 16, verset 18, il construira ainsi son Église. L'évangile selon Jean confère donc une force énorme à l'objectif missionnaire et à la certitude missionnaire qui sont sous-entendus en Apocalypse chapitre 5, verset 9. Jésus a racheté des hommes et des femmes parmi tous les peuples du monde. Il est mort afin de réunir ces enfants de Dieu qui sont dispersés au milieu de tous les peuples. Il lui faut donc rassembler toutes ces brebis errantes à l'intérieur de son enclos. Et comment ce rassemblement, comment pourra-t-il se faire? Comment ce rassemblement se fera-t-il? Eh bien, par la sainte parole prêchée par tous ces messagers, femmes et hommes. Quatre autres passages de l'Apocalypse confirment que l'apôtre Jean considère que l'objectif de l'action missionnaire, c'est vraiment d'atteindre tous les groupes ethniques du monde, afin que les rachetés puissent être rassemblés. Notez, s'il vous plaît, Apocalypse chapitre 7, versets 9 et 10. Et là, il est dit que après cela, je regardais et j'ai vu une foule immense que personne ne pouvait compter. c'était des hommes de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, habillés de robes blanches, des feuilles de palmier à la main, et ils criaient d'une voix forte, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau, qui est Jésus-Christ, le Messie. » Apocalypse chapitre 7, versets 9 et 10. Chers amis, vouloir imiter cette multitude aux convertis de la grande tribulation, c'est de dire que le dessein missionnaire de Dieu sera alors différent de ce qu'il est à présent. Ce qu'implique l'objectif de Dieu pour le monde est tout à fait clair. Le désir de Dieu, c'est d'être adoré par des convertis de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Notez s'il vous plaît Apocalypse chapitre 14, versets 6 et 7. Et écoutez ceci. « Je vis ensuite un autre ange voler haut dans le ciel. Il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et rendez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » J'ai dit Apocalypse 14, versets 6 et 7. Et là encore, le but est que l'Évangile soit proclamé, non pas simplement à de plus en plus d'individus isolés, mais à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Notez Apocalypse chapitre 15, verset 4, où il est dit « Qui pourrait ne pas te craindre, ô Seigneur, et rendre gloire à ton saint nom ? Oui, toi seul, tu es saint, et toutes les nations viendront t'adorer parce que tes actes de justice ont été révélés. » Apocalypse chapitre 15, verset 4. Au vu de l'allusion vétérotestamentaire faite ici au verset 9 et 23 du psaume 86 et au vu du contexte de l'Apocalypse avec son emploi répété d'ethnos pour faire référence à des nations au moins 6 fois et non seulement à des personnes, il ne fait donc aucun doute que l'expression « panta ta ethne » employée en Apocalypse chapitre 15, verset 4, fait donc référence à des groupes ethniques et pas simplement à des individus non-juifs. Par conséquent, ce que l'apôtre Jean annonce comme étant l'objectif de la mission est une multitude adorant Dieu, composée de saints de tous les peuples du monde. Oui, chers amis, il est dit en Apocalypse chapitre 21, verset 3, « J'entendis une voix forte venant du ciel. » Elle disait, « Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple ou ses peuples au pluriel et Dieu lui-même sera avec eux. Il sera leur Dieu. » J'ai dit Apocalypse 21, verset 3. Il s'agit là d'un aperçu surprenant et remarquable des nouveaux cieux et de la nouvelle terre. On y voit des peuples et pas seulement un rassemblement d'individus dans le siècle à venir. Il semble donc que le terme exact du texte original soit au pluriel « peuple ». Par conséquent, en rapportant la voix de l'ange, Saint Jean semble indiquer explicitement, à la différence de Lévitique, chapitre 26, verset 12, que le but ultime recherché par Dieu dans la rédemption est non pas de supprimer les différences entre les peuples, mais de tous les rassembler au sein d'un même groupe de peuples divers, mais totalement unis. Nous pouvons donc conclure de cette étude des écrits de l'apôtre Jean qu'il considère effectivement que l'objectif bien précis de l'action missionnaire, c'est bel et bien d'atteindre toujours plus de groupes ethniques, jusqu'à ce qu'ils y aient atteint tous les convertis de toutes les tribus, de toutes les langues, de tout peuple et de toute nation. L'apôtre Jean est par ailleurs absolument certain que ses objectifs ou cet objectif sera accompli vraiment, car il le voit déjà réalisé dans la fameuse vision du siècle à venir qu'il avait reçue du Seigneur. Cette priorité accordée aux groupes ethniques par l'apôtre Paul et Jean correspondait-elle à l'intention exprimée par Jésus lorsqu'il donna à ses apôtres leur dernier ordre de mission? La conception que avait l'apôtre Paul de sa propre mission, qu'il avait reçue personnellement du Seigneur ressuscité, cela laisse certainement à penser qu'il s'agit bel et bien là de la tâche que le Seigneur lui avait assignée, non seulement à lui, mais aussi à tous les apôtres en tant que tâche missionnaire spécifique de l'Église. Il était écrit. Or, on trouve aussi une preuve de cette intention dans le contexte de l'Évangile selon saint Luc, notamment lorsque l'évangéliste rapporte les paroles prononcées par le Seigneur. Écoutez bien. Saint Luc chapitre 24, versets 45 à 47. Alors, il leur ouvrit l'intelligence afin qu'ils comprennent les saintes Écritures, et il leur dit : Ainsi, il était écrit, et il fallait que cela arrive, que le Messie souffrirait et qu'il ressusciterait le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son saint nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Saint Luc, chapitre 24, versets 45 à 47. Le contexte de ce passage est absolument essentiel. Tout d'abord, Jésus leur ouvre l'intelligence afin qu'ils comprennent les saintes Écritures. Ensuite, il leur dit, ainsi il était écrit dans l'Ancien Testament, avant de poursuivre dans le texte grec original, par les trois propositions infinitives coordonnées qui explicitent ce qui est écrit dans l'Ancien Testament, premièrement, que le Christ doit souffrir, deuxièmement, qu'il doit ressusciter le troisième jour, et troisièmement, que la repentance et le pardon des péchés doivent être prêchés en son nom à toutes les nations. Jésus indique donc que la mission qu'il confie aux apôtres allait pour annoncer le message de la repentance et du pardon à toutes les nations. Allez, faites cela. Cela était écrit dans les Écritures de l'Ancien Testament déjà. C'est un des éléments pour lequel il ouvrit leur intelligence afin qu'ils le comprennent. Mais quelle est la conception vétérotestamentaire du dessein de Dieu pour le monde que nous avons vu précédemment? Elle correspond précisément à ce que l'apôtre Paul avait compris. Ce dessein, c'est de bénir toutes les familles de la terre et de se constituer un peuple d'adorateurs parmi toutes les nations. Nous avons donc de très solides éléments montrant que l'expression « panta ta ethne » employée en Saint-Luc chapitre 24, verset 47, était comprise par Jésus comme faisant référence non pas simplement à des individus non-juifs, mais aussi à la grande diversité, on peut bien le dire, diversité des peuples du monde auxquels il faut annoncer vraiment le message de la repentance pour qu'ils puissent recevoir le pardon des péchés. Revenons maintenant, si vous le voulez bien, à Saint Matthieu et au mandat missionnaire. Oui, revenons à présent à notre objectif initial, c'est de comprendre ce que Jésus a voulu dire par ces mots rapportés en Saint Matthieu, chapitre 28, verset 19, où il est dit « Allez donc et faites de panta ta ethne des disciples ». À ce commandement correspond une promesse de succès que l'on trouve en Saint Matthieu chapitre 24, verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume, elle sera proclamée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Et là ensuite, viendra vraiment la fin. Nous avons donc la fin. Par conséquent, et selon toute vraisemblance, Jésus a envoyé ses apôtres, non pas en leur confiant une mission générale, consistant simplement à gagner à la fois le plus d'individus possible, mais plutôt en les exhortant à atteindre tous les peuples du monde et ainsi à réunir ainsi les enfants de Dieu qui sont dispersés dans le monde. Saint Jean chapitre 11, verset 52, et à rassembler les rachetés de toute tribu, de toute langue, et de tout peuple, et de toute nation. Notez Apocalypse chapitre 5, verset 9. Et cela jusqu'à ce que les rachetés de tous les peuples du monde le louent. Romains chapitre 15, verset 11. Ainsi, lorsque Jésus dit en Saint Marc chapitre 13 verset 10 qu'il faut d'abord que la bonne nouvelle soit proclamée à toutes les nations, rien ne justifie que l'on interprète ces paroles comme voulant dire autre chose que il faut que l'Évangile atteigne vraiment tous les peuples du monde avant que ne vienne la fin. Et lorsque Jésus dit « Allez donc et faites de toutes les nations des disciples », eh bien rien ne justifie que l'on interprète ces paroles comme voulant dire autre chose que le mandat missionnaire de l'Église qui consiste vraiment à poursuivre l'annonce de l'Évangile à tous les peuples non atteints jusqu'au retour du Seigneur. C'est Jésus qui nous a donné ce commandement et il nous assure que ce mandat sera accompli avant son retour. S'il peut faire cette promesse-là, c'est parce que c'est lui qui bâtit son Église avec les rachetés de tous les peuples. C'est précisément dans ce but-là que toute autorité lui a été donnée dans le ciel et sur la terre. Saint Matthieu chapitre 28, verset 18. Chers amis, le but suprême et final de l'Église, ce n'est pas seulement la mission, bien que la mission est importante, mais ce sera surtout l'adoration. Si la mission existe, c'est parce que l'adoration n'existe pas. Si le but suprême est l'adoration et non pas la mission, c'est parce que c'est Dieu et non pas l'homme qui est au centre de toute chose. Lorsque notre monde arrivera à sa fin et que les millions de rachetés se prosterneront devant le trône de Dieu, la mission, elle, n'aura plus lieu d'être. La mission est donc une nécessité temporaire. Or, l'adoration, en revanche, elle demeure éternellement. C'est donc par ces mots que j'ai commencé ces CD sur la place centrale que Dieu doit occuper dans l'entreprise missionnaire. Nous terminons notre étude très courte d'aujourd'hui. Nous la terminons ici et nous poursuivrons, Dieu voulant, demain matin, je suppose que ce sera le dernier volet. Amen. Amen. Chers amis, j'aimerais vous transmettre quelque chose que le Seigneur m'a donné pour vous. Écoutez bien. Il faut acquérir la patience et lutter contre ses passions. Seigneur mon Dieu, je vois combien la patience m'est nécessaire, car cette vie est pleine de contradictions. Elle ne peut jamais être exempte de douleur et de guerre, quoi que je fasse pour avoir la paix. Il en est ainsi, dit le Seigneur. Mais il ne veut pas que vous cherchiez une paix telle que vous n'ayez ni tentation à vaincre, ni contrariété à souffrir. Croyez au contraire, croyez avoir trouvé la paix lorsque vous serez exercé par beaucoup de tribulations et éprouvé par beaucoup de traverses. Afin donc d'éviter les supplices éternels. Efforcez-vous d'endurer pour Dieu avec patience les maux présents. Pensez-vous que les hommes du siècle passé n'aient rien ou que peu eu de choses à souffrir ? mais ils ont, dites-vous, des plaisirs en abondance, ils suivent toute leur volonté, et ainsi ils sentent peu le poids de leurs maux. Soit le Seigneur permet qu'ils aient tout ce qu'ils désirent, mais combien cela durera-t-il? Voilà que les richesses du siècle s'évanouiront comme la fumée, et il ne restera pas même un souvenir de leur joie passée. Et durant leur vie même, ils ne s'y reposent pas sans amertume, sans ennui et sans crainte. Car souvent, là même où ils se promettaient la joie, ils rencontrent le châtiment et la douleur, et avec justice, puisque il est juste que l'amertume et l'ignominie accompagnent les plaisirs qu'ils cherchent dans le désordre. Oh, que tous ces plaisirs sont courts, qu'ils sont faux, criminels et souvent même honteux. Pour toi, dit le Seigneur, ne suis pas les convoitises et détache-toi de ta volonté. Mets tes délices dans le Seigneur et il t'accordera ce que ton cœur demande. Si tu veux goûter une véritable joie et des consolations abondantes, méprise toutes les choses du monde et repousse toutes les joies terrestres, et il te bénira et il versera sur toi ses inépuisables consolations. Plus tu renonceras à celles que donnent les créatures, plus les siennes seront douces et puissantes. Mais tu ne les goûteras point sans avoir auparavant ressenti quelque tristesse et sans avoir travaillé et combattu. Une mauvaise habitude t'arrêtera, mais tu la vaincras par une meilleure. La chair murmurera, mais elle sera contenue par la ferveur de l'esprit. L'antique serpent te sollicitera, t'exercera, mais tu le mettras en fuite par la prière, et en te plaçant sous le sang de Christ et sous la protection du Saint-Esprit. Occupe-toi donc surtout du travail utile, ainsi tu lui fermeras l'entrée de ton âme. Amen. Et maintenant, prions le Seigneur. Grâce te soit rendue, ô Seigneur Jésus-Christ, pour tous les bienfaits que tu nous as accordés, pour toutes les douleurs que tu as souffertes pour nous. Ô très miséricordieux Rédempteur, ami et frère, puissions-nous te mieux connaître, t'aimer davantage, te suivre de plus près. Éternel Dieu de tout l'univers, tu nous as jugés dignes, nous les enfants des hommes, faibles pécheurs, d'être les objets de ton amour et de ta bonté en Jésus-Christ. Tu sais la présomption et l'orgueil qui, malgré tous nos péchés et notre fragilité, habitent dans nos cœurs. Tu connais la vanité qui nous élève à nos yeux au-dessus des autres et notre peu d'empressement à servir. Nous te prions donc maintenant de vouloir te soumettre nos penchants, de soumettre tous nos penchants, et mets en nous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ lorsqu'il s'est humilié lui-même pour se faire le serviteur de ses frères et sœurs en les aimant jusqu'à la mort. Aide-nous à servir nos frères et sœurs dans son esprit et conformément à son exemple. Et cela aussi longtemps que nous les avons encore avec nous et en tous lieux, jusqu'à ce que enfin tu nous appelles auprès de toi dans la céleste patrie. Amen. Et chers amis, maintenant j'aimerais vous mettre quelques chants d'un très lointain passé, 1962. Et bien entendu, vous comprendrez que il n'y avait pas les appareils d'aujourd'hui. J'avais enregistré cela avec un Revox à bande. Et vous pouvez comprendre que traduire cela ensuite sur des cassettes et maintenant sur des CD, ça perd beaucoup de sa netteté. Et parfois, il y a carrément des ratés. Et je vous demande de m'excuser s'il y a des choses qui sont pénibles parfois. Mais essayons quand même, et sachez de toute façon que l'Esprit Saint se trouve dans ces chants, car ils ont été chantés par des personnes, hommes et femmes, qui sont remplis du Saint-Esprit. Souvenez-vous surtout que Dieu vous aime, et de ce fait, il est de mon devoir de vous aimer également de tout mon cœur, de tous mes sentiments, et maintenant, à l'heure présente, là où je suis avec vous, je vous enlace tous, et je vous dis, oui, je vous aime, je vous embrasse tous et je vous dis soyez bénis en et par Jésus-Christ. Et maintenant, essayons de voir si les chants de ce lointain passé fonctionnent encore.
Out where the bright lights are glowing, you're drawn like a moth to a flame. You laugh while the wine's overflowing, while I sit and whisper your name. Four walls to hear me, four walls to see, four walls to hear me, closing in on me. Sometimes I ask why I'm waiting, but my walls have nothing to say. I'm made for love, not for hating. So here, where you left me, I'll stay. One night with you is like heaven, and so while I'm walking the floor, I listen for steps in the hallway and wait for your knock on my door. Four walls to hear me, four walls. I'm getting better. I talked with an old friend. He asked about you. I managed to tell him with just a tear or two. I'm getting better. I'm getting better. I know I'll never be the same. I was standing too close to the flame. But it doesn't so much to hear your name. I think I'll make it. I'm getting better. Convicted and condemned. The trial's over, and now I face the end. Is this your way of telling? The jury all in one. You found me guilty, and now my term's begun. I must confess I've never been untrue. Thought I'd stop by a while got his cars parked there in your driveway, and I see the curtain. Your world was so different from mine, don't you see? We just couldn't be close, though we tried. We both reached for heavens, but ours weren't the same. That's what happens when two worlds collide. Your world was made up of things sweet and good. My world could never fit in. Wish it could. Two hearts lie in shambles, and oh, how they cried. That's what happens when two worlds collide. Of things sweet and good, my world could never fit in. Wish it could. Two hearts lie in shambles, and oh, how they cry. That's what happens when two worlds collide. Wasn't meant for you. Could it be you believe that I've been untrue? Listen, sweetheart, this just cannot be, for you're the only good thing that's happened to me. We have our ups and downs, like all lovers do. But you know in your heart that I worship you. So don't ever think of setting, for you're the only good thing that's happened to me. We have our ups and downs, like all lovers do. But you know your heart that I worship you. So don't ever think of setting me free, for you're the only good thing that's happened to me.
I hear the sound of distant drums far away, far away. And if they call for me to come, then I must go. And you stay. So Mary, Mary me, let's not wait. Let's share all the time we can before it's too late. Love me now, for now is there may be. If you love me, Mary, Mary, marry me. I hear the sound of bugles blow far away, far. Across the sea, so wild and great. So Mary, Mary, let's not wait, or the distant drums might change.